Ben bonsoir tout le monde, ravi de vous voir. J'espère que vous avez passé des congés réparateurs ou studieux, mais j'espère que tout va bien. Donc merci d'être parmi nous pour écouter donc cette deuxième conférence du cycle qui concerne donc cette année migration et cycle de vie. Et donc on va écouter Thomas Firsch, qui est géographe, qui est maître de conférence à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, qui est donc l'Université de Valenciennes, qui travaille sur la géographie de la famille. Donc voilà, hein, comme on vous disait, on a essayé dans ce cycle, comme on l'a introduit la dernière fois, d'aborder différentes étapes, hein, le mois dernier avec les étudiants, différentes étapes du cycle de vie qui peuvent susciter une migration, mais aussi cette dimension familiale dans la migration qui est travaillée donc par Thomas Firsch, qui a travaillé sur la géographie de la famille et qui travaille aujourd'hui sur la famille transnationale dans les nouvelles migrations italiennes. Donc je lui laisse la parole. Et donc n'hésitez pas à noter des petites questions si vous en avez pour ce moment d'échange après l'intervention. Voilà, bonne conférence.
Merci. Vous m'entendez là ?
Oui.
Merci Brenda et merci à vous tous d'être là ce soir. Donc si j'ai bien compris, vous êtes surtout des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants du master migration de Migrinter, c'est ça ? Donc voilà. Non mais c'est pour que j'ajuste parce que voilà, on m'avait dit que c'est de la vulgarisation scientifique, je ne savais pas trop quel allait être le public. Finalement, si vous connaissez un peu les phénomènes migratoires, bon ok. Donc voilà, Brenda m'a bien présenté, effectivement, moi je suis donc géographe et à l'origine je ne suis pas un spécialiste des migrations. J'ai fait ma thèse plutôt en géographie urbaine sur Naples en Italie et j'ai travaillé sur la géographie locale de la famille et plutôt la proximité dans la famille. Puisque en Italie, comme dans beaucoup de pays d'Europe du Sud, en fait, les jeunes adultes, quand ils quittent le domicile de leurs parents, souvent ils restent très près de chez leurs parents, ils vont habiter au-dessus dans le même immeuble, ou un peu plus loin dans la même rue avec des systèmes, parce que c'est leurs parents qui leur achètent la maison au moment où ils se marient. Et donc voilà, j'avais travaillé sur ce système, sur ce modèle résidentiel de proximité dans la famille. Et puis je m'étais aperçu, en fait, dans mon étude à Naples, donc qui était un peu une monographie à l'échelle locale, qu'en fait, dans ces familles, ce modèle de proximité, il n'interdisait pas des circulations transnationales, il les favorisait même, parce qu'il y avait... des membres des classes moyennes italiennes qui allaient faire leurs études en Europe et puis qui passaient parfois 5-10 ans en Europe et puis qui revenaient s'installer au-dessus de chez leurs parents au cours du cycle de vie. Et que, bon voilà, il y avait un lien entre l'organisation locale de la famille et les circulations. Et donc, dans un deuxième temps, ça c'était dans ma thèse, et maintenant, depuis 5-6 ans, je travaille, mais collectivement avec d'autres chercheurs, sur la reprise des migrations italienne en Europe. C'est avec d'autres chercheurs, il y a notamment Camille Schmoll de Géographie Cité, qui intervient souvent aussi, qui a des liens avec Migrinter, Adrien Dubux de Paris-Sorbonne, et Ettore Recchi, un sociologue italien justement de Sciences Po Paris. Avec ses trois collègues, on a fait toute une enquête sur les nouvelles migrations italiennes à Paris. Voilà. Et moi, je m'occupe plutôt dans ce pôle d'études des aspects familiaux, justement, et de la famille transnationale. Alors, pourquoi les nouvelles migrations italiennes ? Ça peut paraître, ça peut vous étonner, parce que quand on pense à l'Italie, on pense plutôt aux vieilles vagues migratoires. C'est un grand pays d'émigration, mais historique, avec une diaspora présente sur au moins 3 continents. Il y a 20 millions d'Italiens qui ont quitté la péninsule de 1860 à 1970, à peu près, en 100 ans. Mais en fait, depuis la fin des années 2000, on observe une reprise de cette migration, de cette émigration, qui s'inscrit dans un mouvement plus général de reprise de l'émigration depuis l'Europe du Sud. Depuis l'Europe du Sud, ça concerne les Italiens, mais aussi les Grecs, les Portugais, beaucoup, les Espagnols, un peu dans une moindre mesure. Et donc il faut rappeler, hein, c'est vrai que l'attention politico-médiatique en Europe est concentrée sur l'immigration des Suds, en provenance d'Afrique ou d'Asie. Il ne faut pas oublier qu'il y a 40% à peu près des migrants, au sens international, hein, de migrants européens, présents dans les pays européens, qui sont en fait des Européens, qui viennent d'autres pays européens. Ces flux intra-européens, de migration intra-européenne, sont extrêmement forts. Ils étaient surtout est-ouest dans les années 90 et 2000, hein, dans la lignée de l'élargissement de l'Union européenne, donc des Polonais allant en Allemagne, des Ukrainiens en Italie, etc. Donc des flux est-ouest importants. Mais depuis la fin des années 2000, on a aussi des flux sud-nord. Les Portugais, les Grecs, les Espagnols, les Italiens ont repris un peu la route de l'exil dans le contexte, un peu de, la, enfin, dans le contexte de la crise des subprimes, qui a durement, en fait, enfin, dans un deuxième temps, qui a atteint durement les pays d'Europe du Sud à travers la crise des dettes publiques de la zone euro. D'accord. Alors, j'ai mis là des unes de presse, justement. Alors, c'est une du Monde en 2013, intitulée « Les chômeurs de l'Europe du Sud, nouveaux immigrés ». En fait, ce phénomène, il est très peu médiatisé. Il est assez peu médiatisé en France. Hein. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu parler voilà, de la nouvelle migration italienne ou grecque ou espagnole à Paris et en France. Un peu plus peut-être dans le secteur académique, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires, notamment italiens, qui viennent à Paris. Mais ce n'est pas très médiatisé. En revanche, donc c'est une migration assez invisible, aussi bien statistiquement, je vais y revenir, que médiatiquement, politiquement, dans un débat qui est très axé sur les menaces et les mythes d'invasion migratoire des pays du Sud. Alors que, par exemple, en 2012, les Portugais étaient la principale nationalité. Il y a eu 40 000 Portugais qui sont rentrés en France, à peu près, selon les chiffres officiels. C'est toujours difficile à mesurer, je vais y revenir, mais... Voilà, c'était le principal groupe national entré en France dans l'immigration régulière en France en 2012, les Portugais, hein, dans une invisibilité médiatique totale. Voilà. Donc, il y a une faible médiatisation de cette migration en France, dans les pays de destination. En revanche, c'est surmédiatisé, très très important, dans les débats des pays de départ. Et en Italie, il y a vraiment un débat politique très très fort sur la fuite des cerveaux, les nouvelles migrations, à tel point que, justement, sous le gouvernement Salvini, l'alliance Lega et mouvement 5 étoiles, qui est tombée là au mois d'août, mais qui a gouverné l'Italie pendant un an, justement, il y avait certaines enquêtes qui montraient que, en fait, les Italiens, quand on les interroge dans les enquêtes publiques, ils sont plus soucieux de l'immigration, ils sont plus inquiétés par l'émigration que par l'immigration. Donc voilà, on ne compte pas les unes de presse. Là, j'ai pris l'Espresso de 2012, qui est un hebdomadaire, sur les nouveaux émigrants. Mais voilà, on ne compte pas les unes de presse en Italie. Toutes les semaines, il y a des articles sur la fuite des cerveaux, l'exode des cerveaux, l'exode des jeunes. C'est intéressant le traitement médiatique, là, parce qu'on voit bien dans cette photo qu'on est dans une vague migratoire qui est traitée et interprétée très différemment des vieilles vagues migratoires italiennes, qui concernaient plutôt des migrants peu qualifiés, originaire des campagnes et allant s'engager dans les bassins miniers ou industriels d'Europe du Nord. Là, on est, vous voyez, une population jeune, à la fois des femmes et des hommes, dans un univers métropolitain, dans un quartier d'affaires, de tours de verre, donc plutôt tertiaire. Et effectivement, c'est comme ça que cette nouvelle immigration est interprétée. C'est une migration de jeunes adultes qualifiés, avec des destinations très métropolitaines et qui sont très différentes des destinations traditionnelles et des vagues, des anciennes vagues migratoires italiennes avec lesquelles ils ont peu de liens familiaux. Et donc, c'est une vague assez différente. Alors donc, moi, je vais parler, on a travaillé sur ces jeunes migrants, pas sur les grands-parents. Mais, en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est sur le lien entre cette nouvelle vague migratoire de jeunes adultes, entre 20 et 35-40 ans, jusqu'à 40 ans à peu près, et leur famille d'origine en Italie, et notamment leurs parents. Et je me suis concentré, moi, on a a fait des enquêtes assez variées sur cette nouvelle migration, mais moi, dans mes travaux personnels, je m'intéresse notamment à la phase un peu d'installation à Paris, quand ces jeunes adultes font des enfants, et alors, à ce moment-là, au lien qu'ils ont avec la mobilisation de leurs parents italiens. Cette nouvelle migration, elle commence à arriver à maturité. Il y a des phénomènes d'installation et de fondation de famille à Paris, et du coup, le système de welfare familial italien est mobilisé pour compenser les carences du welfare français en faisant venir les grands-parents italiens à Paris. Alors j'ai mis justement ce blog qui s'appelle « Maman de cerveaux en fuite », fondé en 2017 par une femme napolitaine que j'ai été interviewée qui s'appelle Brunella Rallo, qui est une mère dont tous les enfants ont émigré, alors pas en France mais aux États-Unis, à Boston. Ces deux enfants adultes ont émigré. Et justement, elle m'a dit qu'elle avait fondé ce blog face à l'inquiétude de vieillir seule et face à l'inquiétude justement de l'éloignement de ses enfants, alors qu'en Italie, le soin des personnes âgées repose encore énormément sur la solidarité familiale et la proximité résidentielle dans la famille. Il y a très peu d'institutions, de maisons de retraite, etc. Et donc c'est la solidarité familiale qui s'occupe des soins aux personnes âgées. Et donc, de plus en plus en Italie, émergent voilà, des blogs et ce débat sur l'impact de ces nouvelles migrations, de cette nouvelle immigration sur le modèle familial italien de welfare familialiste fondé sur la solidarité intergénérationnelle. Alors c'est ça que je vais aborder aujourd'hui, comment, enfin un peu le lien entre voilà, ce modèle qu'on appelait la famille forte sud-européenne ou le système de welfare familialiste et ces nouvelles migrations. Alors, moi, je vais moins m'intéresser voilà, à comment est-ce que les jeunes Italiens à Paris prennent soin de leurs parents âgés en Italie, mais plutôt comment est-ce qu'ils mobilisent leurs parents quand ils font des enfants à Paris, comment est-ce qu'ils les mobilisent et les circulations que ça entraîne en France. Alors, juste pour recadrer, c'est qu'il y a encore de profondes différences en Europe de systèmes familiaux et de systèmes de welfare. Donc, j'ai pris juste deux cartes, un peu pour remettre la perspective, c'est les taux de naissance hors mariage sur la carte de gauche et ce qu'on appelle la famille longue, la cohabitation, la proportion de jeunes de 25-35 ans vivant encore chez leurs parents sur la carte de droite, ce qu'on appelle la famille longue en Italie, hein, le fait que les jeunes adultes, même quand ils travaillent, restent longtemps dans la famille d'origine. On voit qu'il y a des différences très fortes entre l'Europe du Sud et l'Europe orientale d'une part et l'Europe du Nord-Ouest de l'autre. Bon. Par exemple, pour la famille longue, vous voyez que les Italiens, les Grecs, les Espagnols, mais aussi en Europe orientale, hein, on a une très très longue permanence des jeunes adultes dans la famille d'origine, parfois jusqu'à 35 ans passés, alors avec des grosses différences de genre, hein, les garçons restent plus longtemps que les filles, aussi parce qu'il y a un contrôle social et moral sur les filles plus fort qui les pousse à partir, et qui n'est pas lié, par exemple, en Italie, qui n'est pas lié à la pauvreté, par exemple. C'est un phénomène qui est plus fort dans les régions riches du Nord que dans le Mezzogiorno, que dans le Sud italien en retard de développement, enfin moins développé que le Nord. En fait, l'interprétation de ce phénomène, il est à la fois culturel et politique, c'est-à-dire que c'est à la fois un modèle de formation de la famille très ancien en Italie, hein, où en fait c'est les parents qui installent les enfants en leur mettant à disposition un logement pour le mariage, donc c'est un modèle de formation de la famille qui est fondé encore fortement sur le mariage. Alors même s'il y a beaucoup aujourd'hui de cohabitation hors mariage, les naissances hors mariage restent quand même assez peu nombreuses en Italie, c'est ce que montre la deuxième carte. Voilà. Mais ces mécanismes culturels, hein, de normativité du mariage, etc., s'imbriquent avec un système de welfare qui est justement dit familialiste. Hein. Il y a une typologie de Gotha et Spink-Andersen des années 90 qui est assez classique en Europe et qui divise les modèles de welfare, welfare européens. Et les pays d'Europe du Sud se caractérisent par un welfare familialiste, c'est-à-dire que l'État intervient, mais de manière subsidiaire par rapport à la famille, seulement dans les secteurs où on estime que la famille ne peut pas subvenir à la solidarité. Du coup, par exemple, en Italie, il y a un très bon système de santé publique, il y a un très bon système d'éducation gratuit et bien financé. En revanche, le logement et justement la famille, c'est-à-dire le soin des enfants ou le soin des personnes âgées, repose énormément sur la solidarité familiale. Et même dans les communes, par exemple, qui offrent des services publics importants pour la petite enfance, par exemple à Bologne, où il y a une forte proportion de crèches, parce que c'est une mairie communiste, anciennement communiste, avec une tradition de services publics assez important. Même là, par exemple, il y a un non-recours aux crèches qui est assez important. Bon. Donc voilà, il y a un système familial italien qui, à la fois pour le soin des enfants et le logement et le soin des personnes âgées, repose beaucoup sur la solidarité familiale, non pas la mise en institution, mais le logement, la prise en charge par les familles des personnes âgées, souvent avec le recours à des domestiques logés, avec des domestiques salariés. La domesticité est très très importante et du coup, c'est souvent une main-d'œuvre étrangère. Et une grande partie de l'immigration en Italie travaille dans ce secteur domestique, des services domestiques aux familles, des babysitters polonaises, des gardes à domicile ukrainiennes, notamment. Voilà, donc la question, c'est un peu l'impact de ces nouvelles migrations sur ce système familial. Et alors, ça a été très peu, paradoxalement, très peu étudié, parce que, là, c'est ce que j'ai mis, il y a un peu un oubli de la parenté dans les migrations nord-nord. Bon, la migration, ces nouvelles migrations italiennes peuvent être considérées comme des migrations du nord au nord, d'un nord économique à un autre nord économique, qui sont des destinations européennes. Or, si on regarde la littérature sur la famille transnationale, le rôle de la parenté dans la migration, c'est essentiellement sur des migrations sud-nord. C'est-à-dire, on va s'intéresser au soutien familial aux migrants, aux chaînes de care dans la famille, quand c'est des vénézuéliennes qui vont travailler en Espagne, mais quand c'est des Français qui migrent à New York, des Italiens à Paris, on considère ces migrations comme beaucoup plus individuelles dans le cadre de calculs individuels avec des théories du capital humain sans forcément tenir compte de l'aide familiale. Ça tient à un peu une dimension cachée, comme dirait Martine Segalen, une dimension cachée de la parenté dans les sociétés occidentales développées, où elle joue toujours un rôle, mais qui est systématiquement un peu... qui n'est pas mis en avant parce qu'on est dans des sociétés individuelles méritocratiques qui valorisent le mérite individuel. Et donc, je pense que, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'en fait, elle joue un rôle, toujours cette parenté très importante dans ces migrations, mais assez différente de celui des migrations sud-nord. Et l'espace européen, c'est le deuxième point, l'espace européen, en offrant un cadre privilégié du point de vue juridique des mobilités, c'est-à-dire l'espace Schengen en offrant un espace de libre circulation, au contraire, est un espace de déploiement très facile de la parenté en situation transnationale, parce que les migrants italiens ne sont pas soumis aux contraintes et aux normes du regroupement familial qui pèsent sur les migrants des Suds. Quand on est une femme des Suds et qu'on migre en Europe, on a, pour faire venir sa mère ou sa sœur, c'est beaucoup plus compliqué que pour un Italien qui n'a pas demandé de visa, qui n'a pas demandé, etc. Donc on est dans un contexte de... Alors j'ai repris le concept de migration privilégiée de Krutscher en 2012, mais dans un sens un peu... Lui, il utilise la migration privilégiée pour désigner les gens des Nords qui vont vers les Suds. Là, je pense que j'utilise le terme de privilège au sens juridique, en son sens d'ancien régime, de situation juridique, qui permet une mobilité facilitée sur le plan juridique. Et donc, c'est un privilège juridique dont je parle, qui est celui de la libre circulation. Et du coup, ça permet des circulations beaucoup plus fluides de la famille, beaucoup plus souples aussi. C'est pas forcément... on peut faire venir ses oncles, ses tantes, ses cousins, sans tomber sous le coup du regroupement familial ou des visas pour visite familiale qui, vous le savez, en Europe, sont de plus en plus normés selon les standards de la famille occidentale, ce qui pose des problèmes aussi à certains migrants des Sud, pour lesquels, par exemple, les liens avec l'oncle maternel peuvent être très importants dans les systèmes matrilinéaires, par exemple. Bon. Voilà, donc on a en fait des circulations familiales très fluides, hein, assez différentes de ce qu'on observe dans les migrations sud-nord. Voilà. Alors, quelques considérations méthodo, puisque quand même vous êtes des étudiants en master. Cette migration, alors c'est compliqué d'étudier ces nouvelles migrations intra-européennes, qu'elles soient est-ouest ou sud-nord, parce que comme justement elles ont lieu dans l'espace Schengen, elles laissent peu de traces dans les statistiques publiques. Il n'y a pas de permis de séjour pour les Italiens depuis 2003. Plus de permis de séjour pour les Italiens depuis 2003, donc on n'a plus de statistiques du ministère de l'Intérieur pour les flux. Les seules données officielles françaises qui peuvent permettre de mesurer ces flux, qui peuvent permettre de mesurer les stocks, pas les flux, c'est les recensements de l'INSEE, mais qui ont lieu tous les 10 ans. Alors il y a des enquêtes annuelles de recensement également. Heureusement pour l'Italie, c'est un pays qui est doté de registres de population. Donc c'est paradoxalement, c'est les données italiennes qui permettent de mieux mesurer les flux annuels, les flux de combien d'Italiens et d'Italiennes rentrent chaque année en France. En fait, il faut se tourner vers les données italiennes, parce que, comme beaucoup de pays, l'Italie est dotée de registres de population, c'est-à-dire, normalement, il y a un statut qui s'appelle la résidence, et sur lequel beaucoup de droits sont assis. Hein, quand vous, l'assurance, les droits à la santé, par exemple, sont liés à votre lieu de résidence, et quand vous changez de résidence, vous devez vous déclarer à un registre de population, le registre d'état civil de votre commune de résidence. Donc voilà, ces flux... alors, c'est, en fait, dans les enquêtes qu'on a fait sur Paris, il n'y a qu'un Italien à peu près sur deux établi en France depuis plus d'un an qui, effectivement, s'est enregistré, a fait effectivement ce changement dans les registres de population. Donc, c'est aussi une source un peu biaisée, qui minimise les flux. Enfin, c'est mieux que rien. Voilà, du coup, face à cette difficulté de mesurer les flux dans l'espace Schengen, on a, du coup, avec mes collègues, donc Camille Schmoll, Adrien Dubuc et Thore Ricci, on a fait un questionnaire en ligne en 2015. Diffusé par des groupes Facebook et des listes mail notamment par les groupes Facebook, et on a eu donc 515 réponses à l'été pendant 3 mois à l'été 2015, avec vraiment une exploration de l'insertion professionnelle, des lieux d'origine, un peu la trajectoire biographique, les circulations et les liens avec l'Italie, les pratiques urbaines et les lieux de pratique à Paris, la localisation aussi de la famille qu'on a inclus dedans, c'est-à-dire où habitent les frères et sœurs, où habitent les parents en Italie, etc. Donc on a, c'est une source assez riche que je vais un peu utiliser. On a fait aussi des entretiens approfondis avec des Italiens diplômés arrivés à Paris depuis plus d'un an. On n'a pas intégré les étudiants dans ces entretiens, on s'est concentré sur les actifs. Et enfin, moi, j'ai fait alors 3 monographies, ce que j'ai appelé des monographies familiales multisituées. C'est-à-dire, alors c'est pas vraiment des monographies familiales. Ce qu'on appelle une monographie familiale, c'est une étude de cas sur une famille dont on essaye d'interviewer le plus de membres possible, souvent une dizaine, une quinzaine, donc les parents, les enfants. Alors il faut définir justement la famille selon des différents critères. Moi j'ai pris des critères de ce que j'ai appelé la maisonnée, enfin ce que Florence Weber appelle la maisonnée, c'est-à-dire des groupes de mutualisation du quotidien qui gèrent économiquement le quotidien. Et donc dedans, il y a souvent un noyau nucléaire, une famille nucléaire, parents et enfants, mais il y a aussi parfois les frères et sœurs qui peuvent être inclus. Hein, lorsqu'il s'agit par exemple de prendre soin des parents âgés en Italie, il y a une mutualisation des ressources. Et puis il y a aussi les parents. Donc, voilà. Et puis parfois il y a aussi des domestiques logés qui sont un peu inclus dans ces logiques familiales. Bon, alors j'ai fait 3 monographies multisituées entre Paris et Naples. En fait, j'ai identifié des familles du questionnaire, des gens qui avaient répondu au questionnaire. J'ai pris des Napolitains et j'ai été faire des enquêtes en fait à Paris et à Naples, auprès des parents et des frères et sœurs restés à Naples. Je n'ai pas pu interviewer tout le temps toute la famille, c'est pour ça que ce n'est pas des monographies entièrement faites, parce que, bien sûr, ils sont dispersés en Europe, c'est très compliqué à faire une monographie familiale. Il faut aller, quand la famille s'est dispersée entre Cologne, Paris, Londres et Naples, et Florence, Il faut voyager, donc souvent on utilise la méthode des fêtes de famille. Voilà, j'ai été observer des gens à Noël, lors des naissances. C'est là qu'on peut faire des entretiens avec tout le monde. Mais ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que j'en ai fait que 3. Et donc pas mal de choses que je vais dire sur ces circulations de grand-mère sont fondées que sur 3 familles, mais 17 entretiens avec 3 maisonnées, ce que j'appelais des maisonnées transnationales, des groupes qui gèrent ensemble le quotidien, des groupes familiaux gérant ensemble le quotidien. Voilà. Enfin, il y a un peu des e-ethnographies, l'observation des communautés virtuelles et des blogs. Cette nouvelle migration est très active sur Internet, et notamment les Italiens. Hein, vous savez que parmi les blogs les plus fréquentés au monde, il y a des blogs italiens, notamment le blog de Beppe Grillo, le fondateur du mouvement 5 étoiles. C'est un des blogs les plus fréquentés au monde. Ils sont très actifs sur Internet. Et voilà, donc il y a des blogs sur les dynamiques familiales, notamment le blog donc Mamme di cervelli in fuga, Maman de cerveaux en fuite. Et puis j'ai aussi beaucoup suivi, j'ai fait un suivi systématique pendant un an du groupe Facebook Mamme e papà italiani a Parigi, Maman et papa italien à Paris. Il y a la même déclinaison de ce groupe Facebook à Londres et à Berlin, qui sont les deux villes de destination phare de cette nouvelle migration, plus que Paris, hein, plus que Paris. Voilà. Bon, alors voilà pour les dossiers méthodos. Peut-être que je suis un peu long là, hein, je ne sais pas. Donc voilà, je voulais aborder 3 points. D'abord, revenir un petit cadrage sur ces nouvelles migrations italiennes. Puis vraiment, j'entrerai dans le vif du sujet sur l'importation des grands-parents italiens à Paris lors de la naissance et de la fondation de famille à Paris. Et puis je finirai par un 3 qui sera un peu une forme de conclusion, voilà, sur un peu un cadre, enfin une montée en généralité sur un peu un nouveau modèle de famille transnationale typique de l'espace de libre circulation européen. Voilà. Alors, premier point, les nouvelles migrations italiennes, j'ai intitulé ça entre travail, lifestyle mobile et émancipation générationnelle. C'est un peu 3 lectures de ces migrations qui sont une migration de travail, c'est clair, hein, très liée à la crise, mais avec aussi des dimensions de lifestyle générationnel très très importantes. Et une autre dimension justement qu'on a soulignée avec Camille Schmoll et Adrien Dubux quand on a fait notre enquête, il y a une spécificité aussi qui tient à la marginalisation des jeunes adultes en Europe du Sud, et donc c'est pour ça qu'on a parlé de dimension générationnelle de cette migration. Hein, et c'est une troisième dimension que je vais présenter. Voilà. Donc, il y a d'abord quand même un effet crise très net sur ces flux. Ça, c'est un graphique que j'ai fait à travers les données italiennes des registres de population qui permettent de mesurer les flux annuels d'expatriation des Italiens. Vous voyez que... bon, il y a un effet crise assez net, vous voyez, à partir de 2009-2010. Hein, la crise des dettes publiques, c'est vraiment 2009. Et on voit que dès 2010, un peu avec un an de décalage, puis en plus, il y a toujours un an de décalage entre la réalité des flux et leur enregistrement dans les registres de population. Donc voilà, il y a un petit décalage. Il y a une très très nette augmentation vers toutes les destinations. La destination principale, c'est l'Allemagne, qui est la première destination de ces nouveaux flux, et qui est une vieille destination hein, de migration italienne. En revanche, la nouveauté, c'est vraiment le Royaume-Uni et Londres, qui est vraiment aussi une très grosse destination de cette nouvelle migration. La France, elle, est la troisième destination, c'est le trait bleu clair, alors ça dépend des années avec la Suisse. Il y avait à peu près 3000 entrées d'Italiens annuelles en France au début des années 2000, on est passé à près de 12 000 aujourd'hui, donc ça a été multiplié par 4 en 10 ans. Donc c'est un flux important, mais qui reste... alors là, c'est les données officielles, hein, donc on peut facilement doubler le chiffre, hein, puisque la plupart des Italiens qui viennent durablement en France ne se déclarent pas. Il n'y en a que 1 sur 2 qui se déclare au consulat, on peut facilement doubler le chiffre. Voilà, donc c'est un phénomène en forte augmentation, hein, en forte augmentation, et avec un effet crise assez important. Alors j'ai mis en dessous les données du recensement. Par contre, dans le recensement français, qui sont des données de stock, c'est-à-dire que là, ça analyse les personnes de nationalité italienne présentes en France. Donc il y a aussi les descendants de vieilles vagues migratoires qui ont conservé la nationalité italienne. Et donc là, par contre, si on regarde dans les recensements, les données de stock, elles diminuent. Hein, mais les données de... C'est parce qu'elles incluent, les vieilles vagues migratoires. Voilà, on ne va pas s'étendre sur les chiffres. Voilà. Alors, donc il y a bien une dimension de travail importante hein, dans cette migration. Et alors, le questionnaire permettait d'analyser un peu la situation professionnelle de ces migrants italiens à Paris, leur secteur d'activité, la précarité ou non de leur contrat. On a investi aussi les salaires, on leur a demandé vraiment le salaire net par mois. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, alors ces migrants sont majoritairement qualifiés. Hein, la majorité, plus de la moitié, ont fait des études supérieures et 30%, un tiers à peu près, ont un niveau master. Donc c'est une migration qualifiée, highly skilled pour ceux qui ont un niveau master. Mais alors, ce qui était assez intéressant dans le questionnaire, c'est qu'il montrait qu'il y avait quand même une phase de précarité dans les années après l'arrivée à Paris. Donc, par exemple, 25% des Italiens actifs arrivés après 2010, quand on a fait le questionnaire, c'était en 2015. Donc, 5 ans après leur arrivée, il y avait 25% des Italiens actifs qui avaient un contrat de travail précaire et 20% gagnaient moins du SMIC, gagnaient moins de 1200 euros par mois. 50%, la moitié, le revenu médian de ces Italiens, c'était 2000 euros par mois. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas dans une élite migrante. Voilà, c'est ça qu'on a voulu que l'enquête a montré. On n'est pas dans une migration d'élite. Or, souvent, les études sur les migrations nord-nord abordent ces migrations highly skilled, très qualifiées, par le biais un peu de l'élite migrante. Ce sont des migrations élitaires, etc. Nous, ce qu'on montre, c'est une migration de classe moyenne. Une migration de classe moyenne qualifiée, certes, c'est les enfants de la massification scolaire, mais menacés de précarité, enfin, qui migrent justement pour lutter contre la précarité et qui connaît des phases de précarité professionnelle assez importantes et de décalage entre leur qualification et leur emploi à Paris. Alors, c'est parfois des phases provisoires, hein, mais qui peuvent durer 2-3 ans. Et on a des Italiens qui vivent 5-6 ans en cumulant les aides du welfare français, hein, les APL et des petits boulots comme ça qui peuvent durer 4-5 ans. C'est pour ça que le terme de... Alors, j'ai repris l'expression de génération low cost à la sociologue Aurore Filippo, qui, elle, a travaillé sur les migrants est-européens, hein, sur les Polonais et les Roumains en Espagne et au Royaume-Uni, mais qui utilise ce terme pour à la fois pour désigner l'importance de l'intégration européenne et des baisses de coûts et des lignes aériennes low cost dans des circulations et des mouvements d'aller-retour sur le continent, mais aussi parce qu'on est dans une génération voilà, confrontée au post-fordisme, à un marché du travail flexible et qui donc a intériorisé hein, le fait que la migration est un moyen de lutte contre la précarité sur le marché du travail. Donc voilà, ou l'expression de middling transnational. Il y a tout un courant d'études sur la moyennisation des migrations. On est dans une migration de classe moyenne. Cette moyennisation, elle vaut pour les pays des Sud, hein, où c'est aussi une migration de classe moyenne, mais aussi pour les migrations nord-nord. Alors, c'est ni les plus, c'est pas les plus riches, les Italiens qui migrent, c'est pas non plus les plus pauvres, parce que quand on voit les régions d'origine, la carte de gauche, c'est les régions d'origine de nos enquêtés du questionnaire. Donc, c'est 515 réponses. C'est ceux qui ont migré à Paris. C'est pas énorme. Mais je l'ai comparé à la carte nationale italienne de tous ceux qui, de tous les émigrants italiens de 2013. Voilà. D'où venaient ceux qui ont quitté l'Italie en 2013. Hein. On voit que c'est les régions plutôt du nord, donc plutôt les régions les plus riches du pays. Frontalière ou métropolitaine. Donc voilà, c'est pas l'Italie du Sud où on migre le plus. En fait, en Italie du Sud, il y a une migration aussi importante, mais qui est interne, qui est une migration sud-nord, parce qu'il y a aussi, en même temps que cette reprise de l'immigration italienne, il y a aussi une reprise de la fameuse migration interne sud-nord en Italie, très importante historiquement. Hein, des villes comme Turin sont surnommées, Turin est souvent surnommée la ville de la Fiat, c'est aussi la plus grande ville du sud de l'Italie, on dit, parce que une grande partie des ouvriers de la Fiat étaient originaires du sud. Donc voilà, il y a aussi une reprise de cette migration sud-nord en Italie. Donc le schéma, c'est un peu, voilà, les gens du sud migrent vers le nord et les gens du nord migrent à l'étranger. En fait, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de migrants du sud qui vont faire leurs études dans le nord et puis qui après partent à l'étranger. Voilà, mais c'est pas, donc c'est vraiment une migration de classe moyenne, ni les plus riches, ni les plus pauvres. Alors une migration, une nuance à cette notion de migration de travail, c'est aussi que ce que disent, alors là c'est les entretiens qui le montrent, parfois les Italiens qui quittent l'Italie ont déjà un travail en Italie. Mais ils estiment ne pas avoir de perspective de carrière. Donc il y a vraiment un discours méritocratique. Ils migrent pour la perspective de carrière. Alors sauf dans le secteur public, là, dans le secteur académique, où vraiment là c'est bloqué, où il y a une migration académique, universitaire très forte en France. Par exemple, les Italiens sont les étrangers les plus nombreux parmi les candidats du CNRS chaque année. Depuis, ça fait 5 ans maintenant. Donc voilà, il y a un gros problème de népotisme dans l'université italienne. Mais dans le secteur privé, parfois, ils ont déjà eu des emplois en Italie, mais sous-payés. Donc voilà, et alors ce qu'ils disent, c'est vraiment, vraiment la perspective de travail et de progression au sein des entreprises. Donc là, voilà, c'est par exemple une cadre d'ONG qui vous dit... on est conscient en fait qu'on est là, puisqu'on fait des choses ici qu'on ne peut pas faire en Italie. Tout simplement, on vous a donné des responsabilités ici, que ce soit dans la recherche ou que ce soit dans le travail, qu'on n'aurait jamais eu en Italie. Mais quand je dis jamais, vraiment, je pense que moi, j'aurais jamais pu faire un travail éditorial en Italie à 30, 27, 28, 29 ans. Impossible. J'aurais jamais été chargé de mission pour un directeur d'une ONG grande comme VVF. C'est vraiment la progression de carrière et le poste de responsabilité. Ça revient dans les entretiens. Alors, si les Italiens qui viennent à Paris acceptent des phases comme ça, parfois de forte précarité aussi, avant de trouver un emploi stable à Paris, c'est que c'est compensé par l'attractivité métropolitaine et les modes de vie métropolitains qu'ils vont trouver dans les grandes villes européennes, dont Paris. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une dimension de lifestyle dans cette migration qui est très nette dans les entretiens. Alors le concept de migration de lifestyle, lifestyle migration, c'est un concept qui a été élaboré plutôt pour les retraités, pour les migrations de retraite, les retraités d'Europe du Nord allant résider plus ou moins temporairement dans les pays d'Europe du Sud ou de la Méditerranée pour le début de leur retraite donc les résidents allemands dans les îles grecques. Donc ça a été forgé plutôt pour les retraités, mais certains auteurs, notamment Russell King, ont proposé de l'appliquer aussi aux jeunes adultes européens, attirés par l'aspect, un peu l'univers d'opportunité des grandes métropoles. Et c'est pour ça, par exemple, que quand une caractéristique de cette migration, c'est qu'elle est dirigée vers les grandes métropoles et pas du tout vers les villes moyennes ou les villes industrielles, ou des bassins miniers, qui étaient des destinations traditionnelles de l'immigration italienne. Pareil, au Royaume-Uni, il y a eu des études intéressantes qui comparent les destinations des Polonais, d'une part, à celles des Italiens et des Espagnols. Les Italiens et les Espagnols sont très concentrés à Londres, alors que les Polonais sont, comme c'est une migration un peu moins qualifiée, plus industrielle, présents aussi dans les petites villes industrielles du nord de l'Angleterre. Donc là les migrations italiennes sont vraiment très, très métropolitaines. Et même quand on a fait la carte là, des lieux de résidence à Paris, c'est même très Paris intramuros, très central. C'est une migration très, très attirée par le centre de Paris. Alors que, historiquement, il y avait de grandes concentrations aussi italiennes. J'ai pris la carte de Marie-Claude Blanche-Aléard des Italiens à Paris en 1968. Au moment où les Italiens étaient le groupe étranger le plus nombreux en France, au recensement de 1968. Les Italiens de l'Est parisien, très, très présents dans la banlieue nord-est de Paris, dans le Val-de-Marne, notamment Nogent-sur-Marne, etc. Là, on ne retrouve pas du tout le même phénomène. C'est une espèce de dispersion assez forte dans Paris, et notamment dans l'Est parisien, alors qui était aussi une zone de forte migration italienne, mais qui est aussi actuellement une zone de gentrification assez fort de l'Est parisien. Donc il y a aussi une contribution de ces migrations de jeunes adultes européens à la gentrification de ces métropoles européennes. Voilà. Bon, alors, il y a aussi dans ces lifestyles un rôle très important d'Erasmus et des échanges interuniversitaires. 50% des enquêtés du questionnaire de moins de 40 ans ont participé à un échange européen, pas forcément vers la France, hein, mais vers un autre pays européen où ils ont noué des contacts qui ont été remobilisés pour la France. Donc, il y a une socialisation assez précoce à la mobilité de cette génération qui se présente comme une génération européenne ou génération Erasmus dans les entretiens. Donc voilà, il y a un attachement à des espaces de vie assez multilocaux. Alors, c'est pour ça que j'ai repris à l'expression de migration liquide à Russell King, parce que, alors, il y a un débat aussi pour savoir si c'est des migrations ou des mobilités. Moi, je préfère parler de migration parce qu'il y a quand même une rupture. Ces Italiens font quand même entendre une rupture dans leur mode de vie. Et donc, dans la migration, il y a cette idée de rupture dans le mode de vie. Simplement, il y a des circulations assez fortes avec la péninsule, favorisées par la liberté de circulation Schengen et la faible distance, hein, qui est le faible coût de distance. Et donc, je parle plutôt de migration liquide, parce qu'il y a à la fois une rupture dans le mode de vie et des circulations intenses. Voilà. Alors, il y a une troisième dimension qui est cette émancipation générationnelle. Je ne vais pas y passer 3 heures, mais voilà, c'est quelque chose qu'en France, on n'a pas. C'est un débat sur la fracture générationnelle au sein de la société. C'est un débat extrêmement important en Italie. Donc, j'ai mis cette citation de Beppe Grillo, le fondateur du mouvement 5 étoiles, durant la campagne électorale de 2013, hein, où il disait qu'il y a eu la lutte des âges allait remplacer la lutte des classes en Italie. C'est pas la réalité, bien sûr, mais c'est pour vous donner l'importance de ce débat. En fait, il y a une marginalisation très longue des jeunes adultes en Italie, sur le marché du travail, mais également sur le marché du logement, puisqu'on a vu cette famille longue. Et plus généralement, y a un sentiment comme ça, une crise de la projectualité chez les jeunes adultes, qui ne se sentent pas reconnus. Voilà, un manque de reconnaissance des jeunes adultes, hein, qui sont marginalisés aussi, qui sont peu présents dans les médias, dans la vie politique, dans la vie associative, enfin, peu à des postes de commandement, je veux dire. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans les discours des migrants comme une migration vraiment de générations sacrifiées face à une société gérontocratique qui ne leur fait pas de place. Et du coup, alors voilà, j'ai pris le blog de Ornitorinco, voilà, qui est très actif, qui est un Italien très actif sur cette sur un blog pour cette dimension générationnelle. Enfin bref, bon, on va passer vite parce que sinon je vais mettre trop de temps. Donc il y a un sentiment générationnel en migration qui est très, très net, hein, dans les entretiens. Ils se décrivent comme... Ce n'est pas des entretiens, justement, ils passent du jeu au nous, hein, très vite. Ces immigrants italiens qu'on a rencontrés à Paris, ils décrivaient leur expérience comme une expérience collective, hein, en disant, voilà, tous ceux de mon âge, tous ceux de ma génération, on est obligés de quitter l'Italie parce qu'on n'a pas d'avenir, on ne nous fait pas de place, etc. Donc, alors, c'est pour des raisons de travail, mais c'est aussi pour remettre leur vie en mouvement, hein, remettre leur vie en mouvement, se ressaisir de leur destin, en quelque sorte. Et du coup, ils sont aussi attirés par le fait qu'en France, ils sentent, ou ailleurs en Europe, ils sentent qu'ils ont un avenir sur le plan professionnel, mais sur le plan familial. L'immigration va permettre de raccourcir cette famille longue, de reprendre, d'accéder à l'indépendance résidentielle, de fonder une famille, notamment. Et alors donc, je me suis concentré sur la période où ces Italiens parfois fondent une famille à Paris, sachant que dans les discours en Italie, justement, le welfare français est considéré un peu comme un modèle. La politique familiale française, la politique des crèches, des allocations familiales, des congés parentaux, est présentée comme un modèle qui serait source de la forte fécondité française en Europe. Et donc, c'était intéressant de se focaliser sur le moment où ces jeunes Italiens font des enfants pour savoir s'ils sont, s'il y a des modèles différents, s'ils sont justement, si le fait de venir en France va leur permettre de faire des enfants plus tôt, par exemple, parce qu'ils auraient fait en Italie, etc. En fait, pas tellement, ils font des enfants aussi très tard, comme le font les Italiens, et ils vont hybrider les systèmes de welfare en ayant recours au welfare français, c'est-à-dire qu'ils vont scolariser leurs enfants à l'école française, dans les crèches françaises, mais ils vont ajouter à ce recours au welfare français la mobilisation des grands-parents italiens, parce que en fait, ils ont un discours très critique sur le système de welfare français qu'ils trouvent extrêmement dur. En fait, il y a une idéalisation en fait des modes éducatifs des enfants par la famille, qui fait que même si ces modes de garde, enfin, ils y recourent, ils ont besoin quand même de l'appui sur les grands-parents italiens pour en complément du welfare français. Et alors du coup, j'ai repris cette idée d'importation parce que c'est des enquêtés eux-mêmes qui m'ont dit on importe les grands-parents quand on en a besoin, de manière très souple, sur commande, parfois pour juste un week-end, deux week-ends par mois, mais de manière parfois imprévisible, au gré des besoins quotidiens. C'est-à-dire on a besoin de partir deux jours en déplacement professionnel en semaine, paf, on fait venir les grands-parents. Et donc, alors cette figure de la mobilisation des grands-parents, ces mobilités des grands-parents liées aux migrations, elles ont déjà été décrites dans les migrations sud-nord, notamment à travers le concept d'international flying grandmother, voilà, les flying grandmothers, notamment dans la diaspora caribéenne, dans la diaspora philippine aussi. Sauf que dans ces migrations sud-nord, en général, ces flying grandmothers, c'est des migrations de grande distance avec des problèmes de visa, et donc elles viennent plutôt pour des séjours ponctuels, des assez longs séjours mais espacés dans le temps. Et leur fonction de ces international flying grandmothers, c'est plutôt de maintenir un lien familial, un lien et un sentiment familial, mais elles ne sont pas mobilisées pour gérer le quotidien économiquement. Or là, dans ce que j'ai observé à Paris, c'est que quand il y a des enfants, les grands-parents italiens, grand-mère comme grand-père, je vais y revenir, sont mobilisés pour vraiment gérer le quotidien. C'est-à-dire qu'ils viennent garder les enfants, les emmener à l'école, et on compte sur eux dans l'organisation de la famille. Et ils participent aussi au budget de gestion quotidienne. Donc j'ai repris le concept de Florence Weber de maisonnée, au sens de groupe, de mutualisation des ressources quotidiennes. Alors, il y a plusieurs types de circulation. Il y a d'abord donc ces circulations un peu très fluides et sur commande. On importe les grands-parents quand on en a besoin. Par exemple, voilà comment Natalia, une psychologue née en 1978, elle est mariée à un Français, elle, et elle a deux enfants jeunes. Et voilà, son compagnon va partir aux États-Unis début mai. J'ai fait l'interview en avril. Voilà, j'ai pris les billets pour que mon père vienne, que est-ce part ou pas, parce que j'imagine pas rester trois jours toute seule avec les deux enfants, le boulot et tout, mon père il vient. Il y a vraiment cette mentalité à l'italienne où les grands-parents s'occupent des petits-enfants, que je ne retrouve pas forcément partout en France. Tu vois, j'en parlais encore avec ta cousine, donc, parce que j'ai fait l'entretien avec le compagnon, qui me disait que ses parents, même s'ils étaient à Paris, ils garderaient pas comme ça une soirée pour rendre service, mais pas plus. Ils garderaient une soirée comme ça, mais pas plus. Là en dessous j'ai mis l'interview d'une grand-mère italienne là, que j'ai interviewée à Naples. Moi, tout comme la maman d'Isabella, on fait les grand-mères à temps complet. Quand les petits-enfants en ont besoin, on accourt. Là je vais à Florence très souvent parce que la petite habite là-bas, donc que ce soit pour un rhume, une grippe, une impossibilité d'aller à l'école, la mère et le père travaillent, moi j'arrive, parce qu'elle est napolitaine, mais elle a aussi des enfants qui ont migré dans le nord, justement à Florence, à n'importe quel moment, aussi parce que je suis seule à la maison maintenant. Donc, je suis toujours disponible. Je vais y revenir sur les effets du cycle de vie. Donc, il y a d'abord des systèmes comme ça, d'importation très souple, hein, au gré des besoins de la vie quotidienne, et qui sont permis donc, par la libre circulation Schengen, grâce à la libre circulation Schengen, au système de low cost et à la mobilité de courte distance. Après, dans les familles où il y a parfois tous les enfants qui ont migré, il y a d'autres types de circulation qui sont les tours d'Europe familiaux, où là, les grands-parents partent pour plusieurs mois et vont circuler entre les différents enfants qui ont migré. Alors là, c'est une grand-mère napolitaine, Alessandra, que j'ai qui m'a décrit en fait ces deux tours d'Europe qu'elle avait fait l'année précédant l'entretien, donc au printemps 2016 et à l'été 2017. Elle a fait un petit tour au printemps 2016, elle a quitté Naples et elle allait 15 jours chez son fils à Paris qui venait d'avoir un enfant, elle a gardé son fils 15 jours. Après, elle allait voir son frère à Cologne, parce que dans ces familles du sud de l'Italie, aux générations précédentes, il y avait une forte migration en Allemagne. Elle passe après une semaine à Amsterdam, mais avec une copine de la même génération avec elle, pour le tourisme, et elle revient à Naples après un mois. Donc, en fait, là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est couplé aussi à des mobilités touristiques. Donc, c'est un tour qui cumule ces visites familiales et ce tour touristique. Après, à l'été 2017, elle est partie 5 mois. En fait, d'abord en Toscane, chez sa fille qui a migré dans le Nord, puis dans une maison de famille, parce que c'est l'été, en Basilicate, où justement toute la famille, y compris les Parisiens, se rassemble l'été. Et puis après, elle allait passer un mois à Paris pour s'occuper de son petit-fils. Bon, voilà, y a des systèmes de circulation comme ça, où ses grands-mères partent pendant plusieurs mois et circulent en Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, elle circule en groupe avec des groupes d'amis, hein, et donc elle cumule ses mobilités touristiques avec ses visites familiales. Alors, elle se loge où ? Elle se loge... alors, il y a un troisième type de mobilité, c'est les mouvements pendulaires réguliers. Alors là, ce n'est pas forcément quand la fratrie, enfin, que les enfants sont très dispersés, c'est quand il y a un enfant qui a émigré, donc c'est une migration plus linéaire. Et on met en place des migrations régulières, pendulaires, c'est souvent tous les 15 jours, donc c'est des temporalités très réduites. Hein. Les grands-parents viennent tous les 15 jours à Paris, souvent pour 5-6 jours, retournent en week-end hein, pour garder les enfants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont systématiquement logés dans les familles, y compris dans des apparts parisiens un peu petits, où en général, on leur fait une place. Alors, soit c'est, on leur laisse la chambre, plus souvent, on leur aménage un coin dans le salon. Et donc là, j'ai mis de nouveau cette psychologue italienne, Natalia. Elle dit, voilà, il y a aménagé dans l'appartement, je n'ai pas pu prendre de photos, mais il y a en fait les affaires du grand-père qui sont en permanence là. Il dort là sur ce canapé, ici c'est un peu son univers, c'est à la fois notre salon et sa chambre, il y a ses habitudes, il y passe beaucoup de temps au final puisqu'il vient très souvent. C'est un grand-père en plus qui vient de Gênes, qui prend le train de nuit, parce qu'il n'y a pas de low cost Gênes-Paris, il prend le train de nuit et en fait il vient 5 jours tous les 15 jours. Et en fait parce qu'il est veuf, donc aussi il est beaucoup plus mobile, je vais y revenir. Donc voilà, là, c'est trois types de mobilité, les mouvements pendulaires réguliers, les tours d'Europe familiaux, les importations sur commande, très souples. Alors bien sûr, c'est des descriptions un peu ethnographiques. Le problème se pose de mesure de ces mobilités, on les connaît mal, mais il y a de plus en plus d'études sur ce qu'on appelle les mobilités VFR, pour Visiting Friends and Relatives. Je ne sais pas si vous, la prochaine fois que vous prenez un billet sur EasyJet ou sur Ryanair, vous ferez attention, on vous demande de cocher le motif de votre voyage, si c'est business, si c'est leisure, ou si c'est visiting friends and relatives. Donc c'est une catégorie maintenant statistique des voyagistes internationaux, et donc on a des bases de données assez importantes sur aériennes, notamment le transport aérien, sur le rôle que présentent ces mobilités dites visiting friends and relatives dans le total des mobilités. Alors bien sûr c'est des voyages, hein. c'est pas les migrations avec installation. Mais donc là par exemple en 2017 les données Eurostat elles montrent que pour les voyages à l'étranger hein, les mobilités VFR c'est cette bande bleue claire c'était 18,6% des voyages internationaux en Europe en 2017. C'était beaucoup plus que les mobilités business. Beaucoup plus que les mobilités business. Donc c'est quand même un... Et alors, si on regarde les mobilités domestiques, par contre, donc à l'intérieur d'un même État, c'est quasiment autant que les mobilités pour le loisir. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est l'international. C'est quand même 18%, donc presque un voyage sur 5 à l'international en Europe est lié à ces mobilités VFR. Donc voilà, bon, on manque de données quantitatives, mais c'est des bases de données juste de... On n'a pas de données sur qui, enfin sur le profil de ces personnes qui font du VFR, mais les enquêtes commencent à se développer. C'est surtout des c'est moins des gens qui travaillent sur les études migratoires que des chercheurs sur le tourisme, des chercheurs en tourisme qui travaillent sur ces mobilités VFR. Alors, grand-mère ou grand-père volant, flying grandmother ou flying grandfather, c'est bien sûr des grosses différences de genre. En fait, ce que j'ai observé, moi, c'est que les grands-pères se déplacent, mais ils ne se déplacent jamais seuls, sauf quand ils sont veufs. C'est-à-dire que souvent, les grands-parents se déplacent en couple. Alors, les grands-mères m'expliquent, c'est parce que, en fait, ils viennent en couple parce qu'elles ne veulent pas laisser leur mari seul en Italie parce qu'ils ne pourraient pas survivre si elles partent en mois. Donc voilà, ils partent en couple. Donc c'est quand même très genré, fondé sur le modèle de la grand-mère italienne, très genré, même si il y a des grands-pères, quand ils sont veufs, du coup, qui embrassent leur rôle de grand-père, et, enfin qui rentrent dans le rôle de grand-mère, du coup, assez fortement. Mais voilà, les grands-pères circulent rarement seuls, sauf quand ils sont veufs. C'est surtout une, quand même très genré. Après, il y a un gros effet du cycle de vie de vieillesse. C'est une mobilité très forte, mais qui est liée à une phase courte du cycle de vie que j'ai après la première retraite, on va dire, c'est-à-dire un moment où on est à la fois libéré des contraintes du travail. Alors, sauf que dans ces classes moyennes du Sud, pour celles que j'ai étudiées, beaucoup de femmes ne travaillaient pas, en fait, mais bon. Alors, on est libéré à la fois des contraintes du salariat, mais aussi, on n'a pas encore le problème de la dépendance du conjoint ou des soins du conjoint qui sont qui pourraient assigner à résidence en Italie. Donc c'est une période de première retraite et qui correspond à une très forte mobilité de circulation, mais qui parfois ne dure pas parce que après il y a le conjoint dont il faut s'occuper, ou soi-même on entre dans dans le vieillissement, dans la dépendance physique, et ça pose problème. Mais donc lorsque j'ai interviewé par exemple cette grand-mère napolitaine de 74 ans à Naples, elle était hyper contente, quoi. Elle me décrivait sa vie comme une phase quasiment libératoire, où elle était enfin libérée du poids des hommes. C'est-à-dire qu'elle était veuve. Ses filles étaient loin, mais en même temps apportées. Et donc, elle était grand-mère, mais pas grand-mère non plus à temps plein. Et donc, elle pouvait jouer sur cette mobilité pour à la fois avoir du temps avec ses amis et voyager en Europe, etc., et en même temps faire la grand-mère en se déplaçant en France. Et mon mari est mort en 96, c'est donc il y a 20 ans, je me suis habitué, donc aujourd'hui pour moi la liberté n'a pas de prix, je n'irai jamais habiter avec une de mes filles parce que je me sentirais sous contrainte. En revanche, en faisant la navetteuse, c'est défini comme navetteuse, comme ça je suis libre, je peux faire ce que je veux, je ne dois rien à personne. Donc il y a aussi un peu cette installation dans un rôle de grand-mère intermittente qui est sur lesquelles elles peuvent jouer dans cette phase de première retraite. Alors j'accélère. Bon, bien sûr, alors il y a ses grands-parents à distance, parfois ils ne se déplacent pas, mais il y a tout le jeu, il y a tout le rôle des nouveaux médias. Alors moi j'ai parlé de ambient co-presence, c'est un concept que j'ai repris à Mirka Madianou, qui parle d'ambient co-presence pour dire que c'est un espèce de fond permanent de co-présence avec les grands-parents qui, via les smartphones, sont vraiment présents au quotidien, c'est-à-dire ils chantent des berceuses aux enfants quand ils se couchent le soir, on les pose sur la table quand on dîne. Donc il y a vraiment une ambient co-presence des grands-parents. Ok, alors après, il y a aussi une inquiétude, c'est une phase de première retraite, là c'est des circulations très centrées où les grands-parents italiens vont en Europe et à Paris s'occuper des petits-enfants. Mais avec le vieillissement, parfois ils commencent à s'inquiéter, et ce qui circule sur ces blogs de parents italiens d'enfants immigrés, c'est une inquiétude du vieillir seul, quoi. Et du coup, il y a eu les premières enquêtes qui sont sorties en Italie, financées par des financements publics, sur l'impact de ces migrations sur le système de soins aux parents âgés. Voilà, donc bon, quand les parents deviennent dépendants, il y a une inversion des circulations, un recours fort aux domestiques logés. Okay. Alors, dans les derniers chiffres, j'ai été regarder les chiffres de 2017, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se demande s'il n'y a pas certains parents, grands-parents italiens qui fassent à cette peur du vieillir seul, ne vont pas passer justement le cap et venir s'installer définitivement à Paris près de leurs enfants. Parce qu'il y a une augmentation forte de la part des 65-74 ans et des 75-84 ans dans les nouveaux émigrants italiens. Il y a une augmentation forte de la migration de retraite. Alors, mais surtout de... alors, on peut, c'est bien sûr englobé dans des, peut-être des dynamiques de lifestyle aussi, de riches retraités qui vont s'établir à l'étranger. Mais dans le dernier rapporto italien in El Mondo, ce rapport annuel qui étudie l'immigration italienne, il y a un chapitre consacré à ce rapprochement des grands-parents de leurs enfants immigrés. Donc voilà, ça, c'est des chiffres italiens. Je n'ai pas vraiment observé à Paris. Par contre, ce que j'ai observé, c'est des achats immobiliers des grands-parents en prévision d'eux. Et parfois, à l'occasion de la migration de leurs enfants, ils achètent le logement ou un pied-à-terre à côté en prévision d'eux, de leurs vieux jours. Alors déjà, parmi les enquêtés, il y avait quand même 23% de propriétaires occupants, sachant que la moitié des enquêtés étaient arrivés seulement 2 ans avant le questionnaire. En fait, ça veut dire que les Italiens qui arrivent à Paris achètent assez rapidement leur logement, avec de l'aide familiale, souvent. Et souvent, c'est des parents qui achètent, ou qui viennent en même temps et qui achètent. Donc voilà, il y a des stratégies de... en fait, il y a aussi... les Italiens sont aussi les principaux propriétaires immobiliers étrangers à Paris. Alors, c'est plutôt des riches retraités, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, là, dans les observations, j'ai commencé à observer des connexions entre deux vagues migratoires, plutôt les jeunes adultes, et celles des retraités aisés qui achètent des pieds-à-terre à Paris, parce que parfois, ils achètent en suivant leurs enfants qui ont immigré. Ok, bon, je parlais aussi du... Les grands-parents ont aussi un rôle dans la gestion des logements libérés par les immigrés dans les villes italiennes, parce que notamment à Naples, beaucoup de parents avaient acheté des logements assez tôt à leurs enfants pour qu'ils se marient, pour leur mariage, et donc ces logements se retrouvent vides, et du coup ils sont loués sur Airbnb. Il y a aussi un lien entre les locations à court terme, l'explosion des locations à court terme Airbnb dans les villes italiennes, et cette nouvelle immigration, parce qu'elle libère un stock de logements qui est utilisé par les familles pour parfois financer leur migration. Bon, c'est pas grave, je passe vite dessus. Donc voilà, en conclusion. Alors oui, le concept de Eurofamilies, c'est un concept formulé par Adrian Favell dans son étude sur les migrations intra-européennes de 2008. Voilà, il émet l'hypothèse, il n'étudie pas vraiment, mais il émet l'hypothèse qu'avec l'espace de libre mouvement, de libre circulation Schengen, vont se mettre en place des Eurofamilies, des familles transnationales spécifiquement liées au contexte de migration Schengen. Là, c'est un concept intéressant. Je trouve que là, effectivement, avec ces migrations italiennes, on a un autre type de famille transnationale qui ne sépare pas des petits-enfants de leurs parents. Ça ne disrupte pas des familles nucléaires. Ça disrupte la famille étendue, mais pas pour longtemps, puisque on a ces grands-parents qui circulent de manière très fluide, hein, très, très souple, très liquide dans le contexte de l'intégration européenne. Alors bien sûr, il y a le problème du retour des frontières dans l'Europe post-Brexit. On ne sait pas trop si ce modèle va... Il est très lié au système de libre circulation Schengen, donc on ne sait pas si ça va durer. Et puis bien sûr, il y a le problème des études quantitatives sur cette circulation familiale induite par la migration, parce qu'on a très peu de bases de données, on a très peu d'enquêtes quantitatives sur ces phénomènes. Les seules études qui existent, c'est par le biais de ce concept VFR, mais qui est fait par des chercheurs en tourisme. Je pense que ce serait intéressant que des chercheurs en migration s'approprient le thème. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà trop parlé. Merci.
Merci. Merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant. J'ai 2 petites questions et 2 remarques pour continuer la discussion, notamment parce que ça m'a beaucoup parlé en lien avec mon sujet de recherche sur les retraités français au Maroc, où moi du coup j'ai vu le phénomène inverse de grands-parents qui partent, mais qui restent dans les mêmes logiques que celles que tu as décrites, mais en retournant en France pour s'occuper des petits-enfants, notamment en période scolaire, ce genre de choses. Donc voilà, ça me parle beaucoup, mais dans un autre sens. Et j'ai moi aussi parlé de Tour de France de certains de mes retraités qui, du coup, vont de famille en famille pour s'occuper des enfants et des petits-enfants. La différence, c'est que du coup, on n'est pas sur un modèle italien de on prend en charge le budget, on prend en charge l'organisation quotidienne. Et l'autre remarque, c'était par rapport aux travaux de mes rêves. Mais du coup, je pense que tu les connais bien avec Adrien Dubu, qui a travaillé dedans, je crois, qui a montré, je crois, ce phénomène en fait avec des retraités
portugaises.
Voilà, de Portugais qui allaient à Londres, je crois, par exemple. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et donc, mes deux petites questions, c'est est-ce qu'on observe des différences de genre au niveau des enfants? Pas des grands-parents, mais du coup des enfants. Est-ce qu'on va plus vers les filles qui ont des enfants que les fils ou ce genre de choses? Ou est-ce que du coup les filles sont plutôt mobilisées quand il s'agit du phénomène inverse de mobilisation pour le care, pour les grands-parents en Italie? Et mon autre question, c'est est-ce qu'on a des données sur des Italiens en dehors de Paris? Et si oui, est-ce qu'on observe, ou est-ce que toi tu sais s'il y a des différences entre le profil de ceux qu'on observe à Paris et ailleurs en province, et notamment, je pense, petites villes, grandes villes, ou ce genre de choses. Voilà, merci.
Merci pour ces questions. Je sais pas, on prend des rounds de questions ou je réponds du tac au tac, je ne sais pas.
Comme il y en a deux, je te dirais peut-être de prendre celle-ci.
Ok, ok. oui, merci pour ces questions. C'est très intéressant. Alors, pour alors les différences petites villes, grandes villes, non, malheureusement, non, pour l'instant. Pour l'instant, je crois qu'il y a un peu des études sur Marseille. Il y a Magali Balatore qui travaille un peu sur cette nouvelle migration à Marseille, mais donc on reste quand même dans une métropole. Ce serait assez intéressant. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'études. Encore une fois, c'est un phénomène émergent. Il y a encore peu d'études dessus. Sur la France, on est quasiment les seuls à avoir travaillé. Il y a un peu des études sur Londres, sur l'Allemagne. Mais bon, voilà, c'est émergent. Donc, il n'y a pas d'études sur les petites villes. Sur les différences genrées des enfants, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que les différences genrées, elles apparaissent plus pour le soin aux personnes âgées, où là, ça repose beaucoup quand même sur les filles. Déjà, les filles sont en général retenues un peu plus près que les garçons, et surtout, en fait, les garçons participent, mais ils financent, et les filles, elles font du care émotionnel, et donc elles se déplacent, hein, okay, beaucoup plus, et avec un sentiment de culpabilité aussi beaucoup plus fort. Ce que j'ai observé, c'est que, par exemple, parfois, les filles émigrées rentrent, les filles émigrées à Paris rentrent plus souvent que les garçons émigrés dans le nord de l'Italie, qui sont plus près de leurs parents. Voilà, ça c'est clair. Mais les différences de genre, elles apparaissent plus pour le soin aux parents âgés que pour le soin des petits-enfants, où là, il y a un traitement vraiment assez égalitaire des garçons et des filles dans la fratrie. Je ne sais plus ce que tu me demandais d'autre, je crois que c'est tout. C'était les deux, ok, voilà. Oui, sur mes rêves, effectivement, c'est Flying Grandmother. Elles ont été, moi, je me souviens de l'article de Christophe Imbert, notamment sur les Portugaises, les Flying Grandmother portugaises qui, comme ça, circulent. Donc, c'est effectivement quelque chose d'assez répandu, je crois.
Et moi, je voulais vous demander si, comme il y a une chercheuse, Westendorf, qui a étudié le cas des fils de migrants italiens qui, après des retours souvent en Italie, ont choisi de retourner en Italie. Et est-ce que vous avez observé des cas comme ça, des cas de jeunes italiens qui, peut-être avec des retours souvent en Italie, surtout dans le sud de l'Italie, pour la mentalité et tout. Est-ce que vous avez observé des cas de retour de ces jeunes?
Alors, en fait, dans le questionnaire, on avait demandé des adresses mail. On avait demandé les adresses mail de ceux qui accepteraient d'être contactés pour un entretien ou pour un contact. Et donc, moi, j'ai lancé il y a 2 ans, on a fait le questionnaire en 2015 et l'année dernière, donc en 2018, j'ai envoyé à tous ceux qui avaient envoyé leur mail, je leur ai demandé où ils habitaient. Enfin, j'aurais je demandé de. Bon, j'ai eu un taux de retour assez faible, mais sur. Je n'ai plus les chiffres en tête là. Mais sur les 80 réponses à peu près que j'ai reçues, il y en avait 30% qui avaient rebougé, mais pas tous, pour rentrer en Italie. Il y en avait 20% qui étaient rentrés en Italie, et les autres avaient remigré ailleurs, en Suisse, en Angleterre, etc. Alors c'est un gros débat, le problème des retours. C'est un gros débat, et on a peu d'enquêtes dessus. C'est beaucoup plus compliqué. C'est plus difficile d'étudier les retours que les immigrés, parce que même s'il y a des... c'est plus difficile d'étudier les retours. Ils sont... Moi, j'ai fait quelques entretiens quand j'étais à Naples, justement, avec des returnees, enfin, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, de ceux qui étaient retournés. Surtout qu'il y a eu des programmes d'aide au retour des cerveaux en Italie. Il y a eu des programmes d'aide au retour des cerveaux, notamment dans le secteur académique, hein, dans l'université, mais qui n'ont pas marché parce que on leur offrait des très bons contrats de travail, mais pour 3 ou 4 ans. Et les crédits n'étaient pas renouvelés, donc bon... il y a eu des retours comme ça assez précaires, enfin, et puis des gens sont repartis. Non, moi j'ai observé par contre quelques retours familiaux, quelques rappels familiaux, par exemple de plusieurs Italiennes qui étaient rentrées justement parce que avec leurs enfants et tout, c'était compliqué de vivre loin de la famille et qui sont rentrées dans le sud vivre à côté de leurs parents. Mais on manque de données chiffrées, franchement c'est un peu la boîte noire quoi, les retours. Dans la littérature scientifique internationale, il est dit que justement le problème de la migration italienne, c'est que c'est une migration sans retour, et surtout qu'elle n'est pas compensée par une attractivité. C'est pour ça qu'il y a un gros débat sur la fuite des cerveaux. C'est pas du brain drain, c'est pas de la brain circulation, c'est vraiment du brain drain. C'est-à-dire que au Royaume-Uni, par exemple, il y a un taux d'expatriation des diplômés qui est plus fort qu'en Italie. Parce qu'ils ont l'anglais, ils ont accès au marché du travail mondial, mais le Royaume-Uni attire. Alors qu'en Italie, il y a une perte sèche, parce que c'est un pays peu attractif pour les diplômés internationaux. Donc voilà, il y a des enquêtes qui vont sortir, là, je pense, mais pour l'instant, il y a peu de choses sur les quantitatifs sur les retours. Quoi.
Merci. Moi, j'ai juste une question sur un terme que vous avez employé, c'est maisonnée. Et je suis pas sûre d'avoir bien saisi, vous aviez dit que c'était un groupe de mutualisation des ressources quotidiennes.
Oui.
Mais quel genre de ressources ?
Alors, vous faites bien de poser la question. En fait, dans mes travaux, j'utilise peu le terme de famille. Parce que, en fait, c'est un terme qui est devenu très polysémique. Famille, ça peut désigner la famille nucléaire, donc un groupe de personnes... ça peut désigner le groupe domestique, c'est-à-dire un groupe de personnes vivant sous le même toit. Ça peut désigner un groupe de personnes liées par le sang et l'alliance. Voilà. Et puis avec maintenant des formes de cohabitation qui créent des liens de famille sans forcément des liens de sang, ou sans forcément de liens d'alliance. Quand on cohabite hors maillage et hors pax avec quelqu'un pendant 20 ans, on fait partie de la même famille, mais on n'a pas de lien de sang ni d'alliance, etc. Donc, en fait, j'utilise plus des termes qui viennent de l'anthropologie de la parenté, et notamment le terme de maisonnée, celui de parentèle et celui de lignée. Maisonnée, c'est un concept, un vieux concept d'anthropologie, mais qui a été remobilisé récemment par Florence Weber à l'ENS, la sociologue. Et par maisonnée, elle désigne un groupe de personnes qui mutualisent leurs ressources économiques pour faire face à une cause commune dans la vie quotidienne. Donc ça peut être des gens qui élèvent ensemble des enfants, ça peut être des gens qui prennent en charge une personne âgée, ça peut être des gens qui gèrent ensemble une entreprise familiale. Et alors, ils ne sont pas forcément co-résidents. Ils ne sont pas forcément co-résidents, donc là, c'est pour ça que le terme de maisonnée n'est pas toujours le mieux, mais je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais ils gèrent voilà, la vie quotidienne ensemble. Et du coup, on peut parler de maisonnée transnationale. Par exemple, c'est le cas d'Amélie... une thèse récente sur la maisonnée transnationale dans la migration sénégalaise entre Sénégal, France et Italie. Elle parle de maisonnée transnationale. J'ai oublié son nom. Voilà, justement, une thèse avec Florence Weber. Et c'est intéressant parce que ça permet de montrer qu'il y a des liens familiaux qui se créent entre des personnes par la gestion du quotidien, par la mutualité, par le vivre ensemble au quotidien. Et c'est un terme beaucoup moins normé, c'est des groupes d'observation pratique, hein, beaucoup moins normé que la famille au sens parents plus enfants. Enfin, ça permet de sortir en fait, du référentiel de la famille nucléaire qui est tout le temps le référentiel des politiques aussi bien de logement que des politiques migratoires. Puisque le regroupement familial, c'est des parents biologiques et leurs enfants biologiques. Okay, c'est en général ça. Alors que quand on analyse le fonctionnement des maisonnées, on peut voir qu'il y a des frères, des sœurs, des oncles maternels, etc., qui sont très importants dans ce système de mutualisation des ressources au quotidien. Voilà, c'est ce terme que j'utilise. Et alors Florence Weber, elle différencie la maisonnée, qui est un groupe réel de coopération économique, de la parentèle, qui est là un... qui est gouverné non pas par une mutualisation des ressources, mais par des liens de réciprocité deux à deux. Donc, les liens de donc la parentèle, c'est plus large que la maisonnée. Enfin, c'est l'ensemble, alors en général, c'est des liens de sang et d'alliance. Mais voilà, tous les frères et sœurs, par exemple, ne font pas partie forcément de la maisonnée. S'il y a seulement deux sœurs voilà, qui gèrent, qui s'occupent à distance de leur vieille mère malade, elles vont former une maisonnée, mais si les frères ne participent pas économiquement au système, ils sont dans la parentèle, mais pas dans la maisonnée. Ou disons, voilà, un enfant qui part faire ses études, un enfant adulte qui part faire ses études, il est toujours, mais qui est toujours dépendant de ses parents, il va être à la fois dans la parentèle et la maisonnée de ses parents. À partir du moment où il va trouver un emploi et qu'il va être indépendant économiquement, il va sortir de la maisonnée, mais il est toujours dans la parentèle. Il y a toujours des liens de réciprocité, d'affection, d'échange de services de temps en temps. Et puis, si jamais ses parents tombent malades et qu'il va les entretenir en mutualisant ses ressources avec son frère, bah de nouveau, il va reformer une maisonnée avec son frère et ses parents. Oui. Alors, c'est des outils conceptuels qui sont assez intéressants, je trouve, assez opératoires dans les études sur la famille en migration et sur la famille mobile, parce que ça permet de sortir du référentiel famille nucléaire, biologique, hétérosexuelle, enfin, voilà, qui est quand même le référentiel, quand on dit famille, en général, ça compense dans beaucoup d'études migratoires.
Je voulais savoir concernant le financement de ces mobilités, de savoir si la PARC s'est représentée dans les revenus des personnes qui effectuaient ces mobilités, si vous avez des chiffres là-dessus. Après, vous avez parlé un petit peu des modes de financement comme le Airbnb, et je voulais savoir si ça représentait une grande partie, et après, du coup, sous-entendu, est-ce qu'il y a un lien entre les personnes qui sont issues de classes aisées? Est-ce qu'elles vont effectuer des migrations de manière plus régulière, ou si même dans des classes plus précaires, et on va avoir ce même mécanisme et la même fréquence pour ces mobilités?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a quand même dans le questionnaire, quand on fait quand même des tests statistiques de corrélation, etc., il y a quand même un lien fort entre le revenu et la fréquence des circulations entre la France et l'Italie. Il y a quand même un effet du revenu qui est net, quoi. Voilà, vraiment, bon. En fait, bon, je ne pensais pas le trouver, mais si, en fait. Donc, y a un effet très fort. Par contre, alors pour... Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, en Italie, il faut raisonner en termes de patrimoine plus que de revenus, parce qu'il y a un modèle assez fréquent, parce qu'on dit que c'est des familles wage poor, asset rich. C'est-à-dire que des familles qui ont... C'est un pays de propriétaires, l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a 80% de ménages propriétaires de leur logement. Il y a une diffusion très sociale, très très forte de la propriété. Donc souvent, du point de vue patrimonial, c'est des familles qui ont du patrimoine, quoi. Et notamment dans les familles du Sud, où le logement est utilisé comme welfare, parce qu'on investit dans le logement pour assurer ses vieux jours, pour sa retraite, etc. Il y a des familles même modestes, hein, des petites classes moyennes, qui sont propriétaires de 2-3 logements, quoi. Moi, il y a des filles d'ouvriers que j'ai interviewées là à Paris. Elles sont trois sœurs. Elles ont chacune reçu un appartement de la part de leur père, qui pourtant était ouvrier à Naples. cette accession à la propriété massive en Italie, elle est aussi liée beaucoup à la construction abusive, illégale, au système informel d'accès au logement, etc. Mais bon, il en résulte qu'ils ont du patrimoine. Ils n'ont pas forcément des forts revenus, mais c'est compensé par un patrimoine assez important. Et donc, l'utilisation de ce patrimoine comme rente, parce que c'est aussi un pays touristique, l'Italie, et donc on peut louer sa maison, on part en week-end, hop, on loue sur Airbnb, etc. Et donc, ce que j'ai vu, c'est que dans les familles qui ont ce patrimoine, dans les familles de propriétaires, ces mobilités sont vraiment favorisées, quoi, parce qu'il y a cette mise en circulation. En fait, on va utiliser, alors c'est pas la migration elle-même, hein, parce qu'on ne va pas financer sa migration à Paris en louant sur Airbnb. Souvent, on migre par un projet professionnel, universitaire, etc. Mais c'est une opportunité et on va dégager un revenu supplémentaire en louant son revenu par Airbnb. Et ce revenu supplémentaire permet éventuellement de payer des billets d'avion aux grands-parents qui vont venir. Voilà. Et donc, il y a clairement... Parce que c'est souvent... parler de mutualisation des ressources, en fait, les grands-parents viennent à Paris, ils participent aux courses, etc., mais souvent, les billets d'avion sont payés par les enfants parisiens. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de maisonnée de mutualisation des ressources. C'est vraiment un budget commun qui est établi, quoi. Alors, nous, on prend en charge les billets d'avion, vous faites les courses pendant 15 jours. Voilà. Mais donc, il y a un effet du patrimoine, moi, je pense, assez important dans ces mobilités familiales, quoi. Ouais. Oui.
Merci. En fait, je ne sais pas si j'ai bien compris. Il y a un moment, vous avez parlé de la migration italienne qui n'est pas une circulation, qui n'est pas voulu. Vous l'avez étudié. Vous ne l'avez pas étudié comme une circulation, mais vous avez étudié comme une migration. Je ne sais pas si j'ai pas bien entendu ou c'est comme ça que vous avez dit.
Oui, alors j'ai dit migration ou mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, ou circulation, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a un débat dans beaucoup de publications sur ces migrations italiennes. On ne parle pas de migration, on parle de mobilité. On dit les nouvelles mobilités italiennes. Pour les différencier des migrations. Et c'est vrai, alors en anglais, par exemple, pour les Italiens qui migrent en Angleterre, souvent quand on va s'entretenir avec eux, ils ne se définissent pas comme migrants, ils se définissent comme movers. Alors comme en français, moi j'ai fait des entretiens en français, il n'y a pas l'équivalent de movers, je ne sais pas comment. Ils se définissent quand même comme migrants, les miens. Ils se définissent quand même comme migrants. Mais il y a ce débat, effectivement, sur movers ou migrants. Moi, j'ai choisi d'utiliser le terme migrant pour deux raisons. Une raison scientifique et une raison politique. Alors, une raison scientifique, c'est que quand même, dans l'idée de migration, normalement, classiquement, on oppose migration quand il y a quand même une durée du séjour, okay, de plus d'un an en général, bon, dans les statistiques, enfin dans les définitions internationales, et quand il y a aussi une rupture dans le mode de vie. C'est pour ça qu'on parle de migration ville-campagne ou choses comme ça. Moi, ce que j'ai observé quand même dans l'expérience qu'ils me racontent, les migrants italiens, quand ils arrivent à Paris, il y a quand même une difficulté d'installation. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Ils galèrent pour trouver des logements à Paris, ils ont du mal avec le système administratif français, ils souffrent de l'éloignement de leur famille. Donc finalement, dans leur expérience migratoire, il y a quand même une expérience de l'éloignement et du changement de mode de vie qui est forte. Et donc, j'ai choisi quand même de parler de migration. Puis je l'ai fait aussi pour des raisons politiques, parce que en fait, dans les politiques migratoires européennes, on essaye de construire de plus en plus une différence juridique, politique, médiatique entre les migrants qui seraient des migrants extérieurs qui viennent du Sud et les movers qui seraient des Européens mobiles de l'intérieur, etc. Donc, en choisissant de qualifier les deux comme migrants, c'est aussi pour montrer les inégalités de traitement qui peuvent exister entre ces migrants intra-européens et ces migrants sud-européens. Je crois que, il faut, statistiquement, ils sont considérés comme migrants. Et malgré cette... C'est, même académiquement, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes gens. Ce n'est pas les mêmes colloques, souvent. Ce n'est pas les mêmes revues qui publient sur les migrations nord-nord et sur les migrations sud-nord. Et je crois crois que là, avec mon thème de la famille, j'essaye de nouer des ponts un peu entre les deux, quoi, et de montrer les points communs qui peuvent exister, et donc aussi les différences de traitement politique qui existent en ces deux migrations. Voilà, je ne sais pas si j'ai...
Moi, ma question, c'était en fait... Ah, ok, désolée. Oui, mais je ne sais pas si la réponse sera rapide.
Moi, je vais essayer de plus rapide.
Et moi, ma question, c'était juste pour vous demander si votre étude sur la migration, si vous pouvez une fois dire si on pouvait l'analyser comme sous forme, comment vous avez fait pour analyser cette mobilité en ne passant pas par la circulation, genre l'itinéraire de ces migrants, en fait.
Ah si, si je passe par la circulation. C'est-à-dire qu'en fait, leur itinéraire, j'ai reconstruit l'itinéraire de ces migrants avant qu'ils viennent à Paris. Parfois, ils ont été faire une migration d'études ailleurs. Donc, j'ai fait aussi des itinéraires de circulation. Si, il y a de la circulation, mais simplement, après, je me suis intéressé à ceux qui restent un peu plus stablement à Paris. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on puisse opposer circulation et migration. En fait, il y a une circulation migratoire qui crée aussi de l'installation quand on l'analyse sur la durée.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est ce que disait aussi Gilda Simon hein, sur. Enfin, on peut pas opposer tout le temps le paradigme migratoire au paradigme circulatoire. Je crois que les deux se.
Ouais. Synthèse. Voilà.
En français, le débat sur movers migrants, on l'a avec expatriés migrants en fait.
Oui.
C'est celui qu'on retrouve tout le temps, expatrié,
mais alors là aussi, il y a un débat sur le terme expatrié. Ces Italiens ne se définissent absolument pas comme expat.
D'accord.
Parce que expat, ça désigne quand même une migration par des canaux institutionnels, de multinationales ou de.
Absolument.
Et par des liens communautaires avec une communauté expat, ce qu'ils n'ont pas du tout.
Mais sur la communauté française à l'étranger, on retrouve très, très souvent le terme expatrié, alors même qu'il n'y a aucun lien avec
les
institutions.
Parce qu'ils veulent se distinguer des migrants.
Exactement, c'est ça.
Ouais. Ah ouais. Okay.
Donc je suis d'accord avec le point de vue politique, en tout cas.
Merci beaucoup. Et rendez-vous le 5 décembre.
C'est ça.
Voilà. Merci.